Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Audrey Pulvar, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques Bourdin.
Merci d'être avec nous. Candidate soutenue par les socialistes parce que vous n'êtes pas encartée.
Non, je suis une citoyenne engagée, je n'appartiens à aucun parti politique.
Bon, alors.
D'ailleurs, je suis soutenue par le Parti Socialiste et par 6 autres partis de la gauche écologiste,
oui.
Dont Place Publique, dont les Écolos Solidaires, dont le Parti des Radicaux de Gauche, et beaucoup de personnalités citoyens et citoyennes engagées qui, comme moi, n'appartiennent pas à des partis politiques, mais veulent se mettre au service de l'intérêt général.
Je vais y revenir, candidate aux élections régionales en Ile-de-France, Audrey Pulvar. La violence faite aux femmes. Shaynaise avait 31 ans et 3 enfants. Mardi dernier, il était 18h10 environ. Mounir, son ex-mari, la poursuit en pleine rue. Lui tire dessus, dans les jambes. Elle s'effondre. Il l'asperge d'un liquide inflammable. Il met le feu alors qu'elle est encore vivante. Mounir, 7 fois condamné. Le 25 juin 2020, Bordeaux, il est condamné à 18 mois de prison avec sursis, dont 9 mois avec sursis probatoire pour violence sur Shaynaise. Elle avait porté plainte une nouvelle fois au mois de mars dernier, le 15 mars. Elle avait porté plainte, il circulait dans le quartier, il l'avait une nouvelle fois agressée. Qui est responsable? Lui, évidemment, en premier, mais ensuite, qui est responsable? Audrey Pulvar.
J'ai envie de vous dire nous tous. Je ne suis pas là pour jeter en pâture des gens ou pour désigner à la vindicte soit la police, soit la justice. C'est un problème de société, les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales, les violences conjugales. Évidemment, il y a des questions qui se posent, une procédure qui est lancée pour savoir ce qui s'est passé, où ça a dysfonctionné.
Enquête de l'administration et de la justice.
Comment se fait-il que ces armes aient été rendues à cet homme à l'issue de sa garde à vue? Comment se fait-il que Shaynaise n'ait pas eu un téléphone d'urgence? Comment se fait-il que tous les faits que vous avez relatés n'aient pas conduit à qu'un dispositif efficace soit mis en place pour protéger cette femme, pour protéger Shaynaise, comme pour protéger les 38 autres femmes qui, depuis le début de l'année, c'est une femme tous les 3 jours, et même un peu moins que tous les 3 jours, les 38 autres femmes qui, depuis le début de l'année, ont été tuées par leur compagnon ou leur ex-compagnon. Le problème, il est d'abord là. Il est d'abord dans le fait que nous sommes dans une société où, encore aujourd'hui, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon, de son ex-compagnon, où des centaines de femmes sont blessées, parfois très grièvement, défenestrées, poignardées. Elles ne succombent pas, mais elles en gardent des séquelles à vie. Des milliers de femmes, tous les jours, sont l'objet de violences physiques ou psychiques dans la cellule familiale, et nous n'arrivons pas à être en capacité de les protéger. La réalité, c'est qu'il faut beaucoup plus de moyens. C'est facile de dire il y a qu'à Faucon, mais on voit bien, les Français voient bien difficultés que nous avons, qu'il faut beaucoup plus de moyens. Pour la police, pour les enquêtes, pour la prise de plainte, pour le suivi des plaintes, pour la justice, pour que les magistrats puissent faire leur travail et remplir leur mission de façon la plus efficace possible, et le suivi des condamnations, des remises en liberté, etc. Et pour l'éducation, et puis pour pouvoir protéger ces femmes, les mettre à l'abri de ceux qui les tuent.
Violence faite aux femmes, violence contre les policiers.
Absolument.
Avignon, un policier de 36 ans. Oui. Père de 2 enfants qui est assassiné par balle par un trafiquant de drogue. Banalisation de la violence anti-flic. Les policiers agressés parce qu'ils sont policiers. Audrey Pulvar.
Oui. L'histoire. Oui. 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 Les faits nous le montrent, pas seulement dans cette affaire-là.
Donc un sentiment d'impunité chez les criminels.
Les forces de l'ordre sont visées, on le sait. On l'a bien vu en 2015, on l'a vu évidemment en 2012 à Toulouse, on l'a vu en 2015 quand Ahmed Merabet est tué alors qu'il est à terre. Il est tué à bout portant. Quand Franck Brassolaro est tué également, les forces de l'ordre sont visées, on le sait. Et donc, oui, je réponds à votre question, il y a une violence à l'égard des forces de l'ordre qui évidemment est injustifiée et qui parfois tue. Et mes pensées vont d'abord d'ailleurs à la famille de cet homme, à ses proches, à ses collègues de travail et à l'institution. Mais là aussi, vous savez, c'est aussi une question de moyens qui ne sont pas suffisants, de moyens à donner à la police, aux policiers, pour remplir leur mission, pour être protégés, pour avoir les bons équipements. Vous savez, je suis sur le terrain avec des maires d'Île-de-France, dans l'ensemble des départements d'Île-de-France, que ce soit à Paris, dans le 10e, dans le 19e arrondissement, que ce soit en Essonne, que ce soit à Saint-Denis, à Saint-Ouen, que ce soit à Grigny. Les maires sont au contact au quotidien avec leurs administrés de cette violence, de cette insécurité, de cette délinquance, la violence, l'enfer des trafics. Et ils n'ont pas les moyens. Et la police nationale n'a pas les moyens suffisants pour faire face.
La police nationale n'a pas les moyens, ça fait 30 ans. Vous étiez journaliste, ça fait 30 ans que vous entendez ça.
Non, ça ne fait pas 30 ans que j'entends ça, parce qu'il y a eu des périodes pendant lesquelles les effectifs de police ont été augmentés. Oui. Ça ne fait pas 30 ans précisément. Ça date de la réduction en général des dépenses publiques décidée par Nicolas Sarkozy, vous savez, ce non-remplacement de fonctionnaires sur deux, etc.
20 ans. Lâcheté politique de tous bords. Je lis ce que dit, par exemple, Linda Kebab, qui est déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police FO. Lâcheté politique de tous bords. Et depuis tant d'années, la police est en rage. Doit-on laisser l'impunité gagner le pays? Faut-il punir, par exemple, avec de la prison ferme assortie d'un mandat de dépôt,
la loi prévoit
ceux
des punitions.
Qui agressent les policiers? Mais est-ce qu'il faut durcir les lois?
La loi prévoit des punitions. Les lois existent. Déjà, appliquons. La réalité, c'est qu'il nous faut un président de la République qui nous dise que quoi qu'il en coûte, il sauvera les services publics. Parce que ce soit les policiers, que ce soit les juges, que ce soit les infirmières scolaires, les psychologues, les assistantes sociales dans l'éducation nationale, que ce soit le personnel hospitalier dans les hôpitaux, le personnel soignant, il nous manque des effectifs partout dans la fonction publique, et il manque non seulement des effectifs mais des moyens. Vous savez, dans certaines villes, par exemple à Saint-Denis, ce sont les policiers municipaux qui fournissent aux policiers nationaux une partie du matériel, parfois une voiture, parfois un chien renifleur pour aller détecter des produits stupéfiants. Donc il y a un problème, il y a un manque de moyens réels dans l'ensemble des compartiments de la fonction publique, et il faut que, quoi qu'il en coûte, le président de la République sauve les services publics et protège.
Quand on entend aussi, je voudrais avoir votre avis, Audrey Pulvar, quand on entend aussi, par exemple, Camélia Jordana accuser les policiers de massacrer les minorités en toute impunité, est-ce qu'elle ne porte pas une part de responsabilité?
Je pense que le terme massacrer est un peu exagéré. Là, on part très loin sur la polémique de Camélia Jordana. Au sein de la police nationale, il y a des policiers qui ne remplissent pas de façon républicaine leur mission, on le sait. Il y a des affaires, il y a eu ce groupe WhatsApp avec
des
propos racistes, il y a des enquêtes, etc. Mais je crois profondément que l'ensemble de notre police est une police républicaine, et que justement, pour honorer le travail de celles et de ceux qui remplissent leur mission de façon républicaine, de façon intègre, en mettant leur propre vie en danger, il faut sanctionner les brebis galeuses. Mais je ne dis pas que tous les policiers soient encore une fois à jeter
et frappe les minorités en toute impunité.
Non, je ne tiens pas ce propos. Je ne crois pas que ce soit la réalité.
Bien,
ce qui est réel, c'est l'insécurité.
Ce qui est réel,
c'est le manque de moyens.
C'est le trafic de stupéfiants.
Oui, absolument.
Le trafic de stupéfiants.
C'est
alors
un
la
enfer.
Lutte, que faire?
C'est un
légalisation
enfer
du cannabis. Vous êtes favorable à la légalisation du cannabis?
La dépénalisation, c'est une façon d'encadrer.
Oui.
La distribution en quelque sorte de produits stupéfiants. Personnellement, c'est pas ma religion. J'en ai pas, je suis athée, mais personnellement, c'est pas ma religion. En revanche, j'entends.
Pour.
Non. Non, j'ai pas dit ça. Permettez-moi une petite nuance.
La nuance est toujours
j'entends
importante.
J'entends ce que disent celles et ceux qui vivent cet enfer du trafic de stupéfiants. Moi, j'ai la chance d'habiter dans un quartier bourgeois où j'ai pas beaucoup à m'en faire. Je rentre tard le soir, je pars tôt le matin. Je me pose pas la question de savoir ce qui se passe en bas de mon immeuble. En général, c'est assez calme. Tout le monde n'a pas cette chance. Et j'ai bien conscience d'avoir cette chance. Tout le monde n'a pas cette chance. Et je rencontre des milliers de franciliens et de franciliennes qui n'ont pas cette chance. Et je rencontre des maires qui, au jour le jour, sont confrontés à cet enfer du trafic de stupéfiants et qui disent: la légalisation, c'est une solution pour casser les trafics, pour casser cette criminalité, pour rendre aux franciliennes et aux franciliens de la sérénité. Et je les écoute, ces maires, que ce soit des maires socialistes, des maires communistes, des maires divers gauche, des maires de droite aussi, des maires LR aussi, qui réclament cette légalisation parce qu'ils pensent que c'est l'un des moyens pour lutter, mais ça n'empêche pas la prévention, l'éducation. Parce que l'usage des stupéfiants n'est jamais inoffensif. Il n'y a pas d'innocuité du cannabis. Ce n'est jamais inoffensif. Mais l'encadrer, c'est une façon, encore une fois, de casser les trafics, de faire baisser la criminalité, la délinquance qui y sont associées, et aussi de protéger les consommateurs.
Parlons un peu de politique rapidement, avec ces législatives, ces régionales.
Non, merci.
Vous n'êtes pas candidat aux législatives, non.
Pas de scoop.
Rassemblement, union, ces mots, j'entends ces mots sans cesse à gauche.
Oui.
Rassemblement, union, mais je ne vois aucun rassemblement et aucune union.
Écoutez.
Oui.
Moi, j'ai sept partis politiques de gauche avec moi dans l'Île-de-France en commun.
Enfin, vous n'avez pas Europe Écologie Les Verts.
Je ne les ai pas
vous
tous.
Vous n'avez pas la France Insoumise.
Oui.
Vous n'avez pas les principaux partis. Pardon.
Ah ouais, le Parti Socialiste, le PRG, c'est pas des principaux partis.
Oui,
Place Publique, c'est pas un beau parti.
Non,
plein d'ambition et de promesses.
Mais est-ce qu'il peut y avoir une seule liste avant le premier tour?
Il y aura peut-être une seule liste. Vous savez, ça. Jean-Jacques Bourdin,
vous découvrez
une question...
la politique, quoi, si j'ai bien compris.
Non. C'est une question que me posent beaucoup de journalistes, et probablement que si j'étais dans votre rôle, je la poserais également. Mais c'est une question que ne me pose aucun francilien.
Oui, ça j'imagine.
Et aucune francilienne que je rencontre. De quoi me parlent les gens? Ils me parlent de la crise économique, de leur angoisse pour leurs enfants, pour les jeunes, la jeunesse. Les gens me disent, gratuité des transports, ils trouvent que c'est une super mesure, ils ont envie qu'on la mette en œuvre.
Je vais y revenir, Audrey Pulvar, la gratuité des transports. Mais Audrey Pulvar, oui, il ne vous parle pas de politique, bien sûr, alors que la gauche ne parle souvent que de politique.
Moi, je considère qu'on a parlé politique.
Alors, j'ai une question,
mais pas de politique politicienne.
Pourquoi est-ce que la gauche a perdu une grande partie du vote populaire? Pourquoi est-ce qu'une grande partie du vote populaire ouvrier vote maintenant, par exemple, pour le Rassemblement national? Pourquoi?
Je pense que une partie de la gauche n'a pas réussi à continuer à parler au quotidien des Françaises et des Français de leurs difficultés et à prendre en compte ces difficultés-là. Je pense surtout que ce qui se passe avec le vote des extrêmes, ce qui se passe avec l'abstention, c'est la traduction concrète, démocratique ou antidémocratique, c'est la traduction des effets du réchauffement climatique. Je sais que vous allez trouver ça éloigné, mais la réalité, c'est que le réchauffement climatique est un amplificateur d'inégalités. Plus on est bas dans l'échelle des revenus, plus on subit, ici aussi, en France aussi, en Île-de-France aussi, plus on subit les effets du réchauffement climatique sur la santé, les questions de précarité énergétique, les difficultés à s'alimenter correctement, les questions des effets de la canicule,
avec la sécurité,
etc.
Par exemple. Eh
bien, non, le lien.
La gauche a négligé la sécurité.
Des personnes, mais c'est pas qu'une question de sécurité. Des personnes qui sont déjà en situation de précarité sont rendues encore plus précaires par les effets du réchauffement climatique et ont la sensation d'être abandonnées par les partis politiques tels qu'ils les connaissent.
Est-ce que vous avez entendu les mots du leader de Podemos en Espagne, le grand ami de Jean-Luc Mélenchon, Podemos qui a connu l'échec au régional, à Madrid, vous avez vu, je cite,
je me retire de la vie politique
car je ne contribue pas à rassembler. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon devrait se retirer de la vie politique?
Oula, parce que vous me demandez en plus
est-ce qu'il contribue à rassembler?
Je ne sais pas. Ce n'est pas mon sujet. C'est pas mon sujet.
Je n'ai pas d'avis.
C'est pas la question. C'est simplement que c'est pas le sujet.
Bon, d'accord.
On parle des élections régionales. On parle de la difficulté des Franciliennes et des Franciliens à faire face aux effets
de la crise. Rassemblement à gauche.
Jean-Luc Mélenchon est candidat à la présidentielle. C'est en 2022. Mon agenda, c'est 2021.
Bon, gratuité des transports publics. On est d'accord, c'est la mesure phare de votre programme.
Oui, absolument.
Bon, combien va-t-elle coûter? 4 milliards d'euros, c'est cela?
Non, un petit peu moins quand même.
Combien?
Un peu moins. Aujourd'hui, 2,5 milliards d'euros, entre 2,5 milliards et 3 milliards d'euros.
Et comment faites-vous?
Ce qui est important
pour financer ça.
Je vais répondre à votre question. Ce qui est important, c'est de comprendre que la gratuité des transports, c'est une mesure de pouvoir d'achat pour les familles les plus modestes, pour les jeunes. C'est une mesure de justice sociale et de désenclavement. C'est pour permettre notamment aux jeunes franciliennes et franciliens de pouvoir se déplacer à leur guise là où ils sont partout chez eux en Île-de-France. Et c'est évidemment une mesure de responsabilité face à l'urgence climatique. Et c'est une mesure qu'il faut prendre dans un tout et ne pas l'isoler. Faire la gratuité des transports, ce n'est pas renoncer à la qualité des transports. On fait les deux à la fois. Et d'ailleurs, partout où on a instauré la gratuité des transports, le service s'est amélioré. Aujourd'hui, il y a 1,5 million de Français qui vivent dans des villes où les transports sont gratuits. Ils peuvent témoigner du fait que ça améliore les services, ça améliore la desserte. Sur le financement, les recettes de billetterie, c'est de la dépense de fonctionnement, c'est pas de la dépense d'investissement pour Île-de-France Mobilité, pour les transports. Donc toucher aux recettes sur le fonctionnement, ça n'empêche pas l'investissement. Et ces recettes, nous pourrons les compenser, notamment avec ce que nous permettra cette loi climat bien insuffisante, mais qui a quand même une petite pépite. C'est un article, l'article 32, qui permet aux collectivités régionales de définir leur propre fiscalité écologique. Donc nous allons utiliser cet article-là, cette disposition-là. C'est une taxe. Oui. Une collecte de, bah, attendez, une collecte une de taxes taxe sur les transports les plus polluants, par exemple.
Mais on aurait pu le voir, une taxe, l'e-commerce. C'est un impôt. Oui.
Vous considérez que c'est un impôt quand il s'agit de l'école publique, par exemple,
mais une
quand
taxe, il s'agit c'est un impôt, de la, quand il s'agit c'est, de la route. C'est exactement la même chose, Audrey.
Il y aura, nous allons mettre en place une fiscalité écologique pour financer en partie la gratuité des transports en commun.
Donc, un impôt.
Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, quand l'impôt sur la fortune a été supprimé, oui, manque à gagner pour les finances publiques 3 milliards d'euros, dont 1 milliard et demi provenait des ménages les plus riches d'Île-de-France. Donc quand on retire 1 milliard et demi d'euros aux finances publiques en Île-de-France pour les plus riches, ça ne fait de la peine à personne.
Mais
quand on parle de mettre 2 milliards et demi d'euros sur la table pour les classes modestes, pour les classes moyennes et pour les jeunes, là, tout le monde est choqué. Moi, ça ne me choque pas.
Non, mais je n'ai pas question d'être choqué ou pas. Qui verra
une taxe sur les transports les plus polluants, sur l'e-commerce
transports les plus polluants, c'est-à-dire le transport routier.
Notamment le transport routier.
Donc une taxe, un impôt sur les transporteurs routiers.
Oui, sur les transports les plus polluants, qui ont un impact sur la santé des franciliens. Une taxe sur l'e-commerce, et puis de façon générale, nous souhaitons organiser des assises de la fiscalité régionale pour que les régions, et l'Île-de-France n'est pas la seule à le réclamer, en tout cas l'Île-de-France que je présiderai, pour que les régions puissent définir leur fiscalité. Puis vous savez, l'idée, ce n'est pas de récupérer 2 milliards et demi d'euros en taxes ou en impôts. L'idée, c'est aussi de tabler sur les coûts évités. Aujourd'hui, la circulation automobile individuelle en Île-de-France, c'est une accidentologie de 2 milliards d'euros. C'est pas moi qui le dis, hein. Institut Paris Région. Accidentologie, 2 milliards d'euros de coûts pour la collectivité en Île-de-France chaque année. Encombrement, retard de livraison, embouteillage, etc. 10 milliards d'euros par an. Au total, avec en plus les coûts pour la biodiversité, ce sont 16 milliards d'euros par an qui pèsent sur l'ensemble des franciliennes et des franciliens parce qu'ils ne peuvent pas utiliser un réseau de transport en commun qui soit moderne, qui soit développé avec des dessertes qui maillent l'ensemble du territoire et qui soit gratuit. Nous n'allons pas transférer l'ensemble du trafic automobile sur les transports en commun, mais juste une petite part nous permettrait d'éviter ces coûts dont je vous parle et nous permettrait surtout d'avoir un service au contact et au service de l'ensemble des franciliennes et des franciliens, faire du transport collectif, de transport en commun, un service public, ça me semble une ambition plutôt enthousiasmante.
Est-ce que Jean-Michel Blanquer a pris la bonne décision en interdisant l'écriture inclusive à l'école?
Franchement, on a commencé cette interview sur la question des féminicides. Vous m'avez demandé qui est responsable, je vous ai dit, posons-nous la question en tant que société. Mmh. Aujourd'hui, la question c'est la question des violences faites aux femmes intrafamiliales, les violences sexuelles, les incestes.
Nous avons commencé avec Audrey Pulvar.
Sur les enfants.
Mais je vous pose simplement la question. Je vous pose simplement la question parce que.
Au lieu de se dire, oh là là, on en a assez des féministes, oh là là, il y a déjà assez de lois, qu'est-ce qu'elles viennent nous embêter encore? Posons-nous la question des vrais problèmes. Le vrai problème aujourd'hui, c'est la cause majeure du quinquennat, soi-disant la grande cause du quinquennat, les violences faites aux femmes. Vous voyez bien que les résultats n'y sont pas. Très sincèrement, les vrais sujets, ils ne sont pas là. La langue, notre langue, elle évolue. C'est une langue qui s'adapte.
Alors, c'est pas un sujet. Pour vous, c'est pas un sujet.
Non, pour moi, c'est pas vraiment un sujet.
Donc,
très sincèrement,
qu'il le fasse ou pas, peu importe. Qu'il l'interdise ou pas, peu importe.
Ça n'empêchera pas la langue d'évoluer.
J'ai une dernière question. Est-ce que vous trouvez, franchement, Audrey Pulvar, que Paris est enlaidi par les plots de béton, par les bornes en plastique jaune sale qui jalonnent les rues, les boulevards et les avenues? Franchement.
Alors, je vais vous répondre franchement par une question, puis, mais alors, je répondrai par une réponse. C'était mieux le parking de voitures devant Notre-Dame, ou qu'est-ce qui est mieux? C'était le parking de voitures devant Notre-Dame?
Non, c'était le parking devant
l'hôtel de ville, ou c'est une esplanade d'hôtel de ville piétonne?
Nous ne voulons, les Parisiens, ces plots
jaunes et ces lignes jaunes sont beaucoup moins hideux que des fils de voitures qui encombrent l'espace public. L'usage de la voiture individuelle, il va continuer en partie. Mais l'usage des autres mobilités, mobilité active, par exemple le vélo, il est indispensable.
Mais il n'y a pas moyen de faire autrement.
Mais allons-y, faisons les travaux pour pérenniser les coronapistes.
Je le souhaite.
En tout cas, en Île-de-France, je souhaite qu'on pérennise les coronapistes après concertation avec les élus locaux et diagnostic de leur efficacité.
Merci, Audrey Pulvar, d'être venu nous voir à 8h54 sur RMC et BFM TV.